Gilles Bogaert, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur financier de Pernod Ricard. On va parler avec vous de vos résultats annuels 2015-2016 et puis des perspectives. Une année de confirmation de votre croissance pour Pernod Ricard dans un contexte qui reste compliqué de marché.
C'est un marché contrasté, avec des marchés qui vont bien, des marchés qui vont moins bien, certains qui s'améliorent. Globalement, c'est une performance qui est solide, hein, plus 2% de croissance organique de nos ventes, en légère amélioration par rapport à l'année précédente, plus 2% de croissance de nos profits opérationnels, au milieu des objectifs qu'on avait donnés au marché, donc en ligne avec cette guidance. Les États-Unis ont fait une bonne année, à plus 4%, alors qu'on était stable l'année dernière. C'est important puisque c'est notre principal marché, donc c'est une très bonne nouvelle. L'Inde continue à très bien se porter, l'Espagne va mieux également. Après, on a encore un certain nombre de points plus négatifs, comme par exemple la performance chinoise qui reste à moins 9. Mais globalement, c'est une année solide avec beaucoup d'initiatives dans différents domaines qui nous permettront de continuer à améliorer notre performance dans l'année qui vient et les années qui suivent.
Si on revient un instant sur la Chine, est-ce que les grands opérateurs comme vous, comme d'autres, finalement, n'ont pas peut-être sous-estimé ou espéré plus vite un redressement de ce marché chinois? Il y avait des raisons hein, pour le frein brutal de ce marché, mais peut-être qu'il se serait redressé plus vite.
Il y a une transformation profonde de ce marché et c'est vrai qu'on reste tout à fait confiant dans notre capacité à renouer avec la croissance, mais ça impose une transformation, une évolution vers un portefeuille plus premium, donc tirer parti de l'ensemble de notre portefeuille qui est très, très riche en la matière. Un changement d'organisation également pour pouvoir être plus fort dans les nouveaux canaux qui émergent et d'avoir une force de vente dédiée à ces marques premium. Donc on a mis en place cette force de vente dédiée. Ça fait 3 ans à peu près qu'on investit derrière ces relais de croissance au niveau de notre portefeuille. Donc ça va délivrer. Ça prend effectivement un peu de temps parce que c'est un changement assez profond. Je pense que l'enjeu, c'est d'être moins focalisé uniquement sur le très haut de gamme et le prestige, mais d'avoir une offre destiné à conquérir la classe moyenne émergente qui croît à plus de 10% par an en Chine.
C'est encore difficile de prévoir à quel moment le marché va vraiment renouer avec la croissance.
Je pense qu'à moyen terme, on est très confiant dans le fait qu'on va renouer avec une croissance solide en Chine. Il y a encore aujourd'hui une incertitude sur le timing de ce retour à la croissance. Mais Martell tient bien, Ballantine's Finest se développe bien, Absolut, les vins. Donc on a toute une série de marques qui délivrent une belle croissance sur une base encore faible. Je pense qu'un des enjeux pour nous l'année prochaine, c'est d'améliorer la performance aussi sur la partie très haut de gamme du portefeuille. Mais on a pris toute une série d'initiatives qui nous rendent plus confiants dans notre capacité d'avoir une meilleure année en Chine en 2017 qu'en 2016.
Un mot des marchés européens, comment sont-ils comportés ?
Solide. L'Espagne donc, a eu une très belle croissance à plus 8% et c'est important parce que c'est notre cinquième marché. Hein. Le gin est très dynamique, le scotch est revenu en légère croissance également. La France a eu une année, alors optiquement on a une croissance de moins 7%, mais on avait expédié en amont de la fusion des back-office de Ricard et Pernod et donc on avait une base de comparaison défavorable. Hors cet effet technique, on est stable en France. L'Allemagne, c'est satisfaisant. Au Royaume-Uni, on gagne des parts de marché. Donc l'Europe de l'Ouest, en dehors de l'effet technique France, on a plus 3% avec une amélioration des marges. Donc on est satisfait. L'Europe de l'Est, on est résilient puisque la Russie est à plus 2, la Pologne est à plus 10. Donc globalement, on est à plus 5 quand on connaît les difficultés liées à l'embargo en Russie et à la baisse du rouble. C'est une performance qui est tout à fait honorable. On espère la poursuivre l'année qui vient.
Alors vous suivez de près comme les investisseurs votre top 14 hein, des marques premium dont on a parlé. Quels sont les points positifs pour vous? Il y a bien sûr un certain nombre de marques que vous citez où il doit y avoir un certain nombre de progressions.
Alors Jameson, c'est le fer de lance de la croissance hein, de ce top 14, tiré par les États-Unis bien sûr, mais aussi tiré par une globalisation croissante de cette marque qui a un vrai potentiel en Europe, également en Asie. On est très satisfait également de la performance de Beefeater, de Glenlivet, le portefeuille Champagne et notamment Perrier-Jouët, Ballantine's Finest également qui se développe très bien dans les pays matures et dans les pays émergents. Je pense que les marques sur lesquelles on a des améliorations à apporter, c'est Chivas et Absolut. Chivas a souffert de son exposition à la Chine et au travel retail, qui sont des marchés qui ont été plus difficiles. Absolut, la bonne nouvelle, c'est que ça va mieux aux États-Unis. On a lancé toute une série d'initiatives, y compris une nouvelle campagne pour améliorer la performance aux États-Unis. Donc la performance est en ligne avec le plan de marche de stabilisation de la marque à moyen terme. Et en dehors des États-Unis, en Europe, on a des performances également satisfaisantes sur la marque. Et sur Martell, on a une année en baisse. Néanmoins, nous sommes confiants dans notre capacité à revenir vers la croissance dès l'année 2017 sur Martell, grâce à un rebond en Chine et aussi à un développement plus global de la marque aux États-Unis, en Russie et en Afrique.
Alors un mot d'un concurrent, on vous en parle souvent, la marque Spritz, comme c'est l'été. On dit souvent à Pernod Ricard, mais comment se fait-il qu'il n'y ait pas eu cet équivalent d'apéritif d'été? Qu'est-ce que vous répondez aujourd'hui? Est-ce que vous avez une arme également pour contrer Spritz?
D'ailleurs, c'est intéressant ce que vous dites, parce que Spritz n'est pas une marque, c'est un type de cocktail.
Je citerai d'ailleurs
pas
l'apérole.
Je citerai pas la marque qui est derrière. Bon, cela étant, nous, l'enjeu, c'est de conquérir des nouvelles occasions de consommation avec l'ensemble du portefeuille. Par exemple, en Allemagne, on a lancé Aperitivo Rosato autour de la marque Ramazzotti, qui a une très belle performance et qui, globalement, croît dans cette mouvance du Spritz. En France, c'est le moment d'apéritif. Alors certes, on a Ricard qui continue à être consommé de la même façon qu'auparavant, bien évidemment, même si on peut la consommer Ricard également, vous le savez, en mauresque ou pas simplement, je dirais, de sa manière classique. Et là, on essaie de diversifier les modes de consommation de Ricard. On a également Lillet, hein, qui est consommé de manière différente, moment d'apéritif, et qui concurrence également, finalement, le Spritz qui s'est développé récemment en France. Donc, on a des réponses. Pour maximiser notre capacité à saisir ce moment apéritif, mais on doit faire concurrence à la bière, au vin rosé ou au Spritz, parce que pas mal d'initiatives de différentes catégories sont sur le même créneau.
Un mot du portefeuille de Pernod Ricard, vous dites gestion active du portefeuille, bon, ça veut dire aussi qu'il faut, bon, il y a cette premiumisation dont on a parlé, mais il y a des arbitrages qui vont être faits aussi encore dans les prochains mois?
C'est un processus d'arbitrage continu au niveau du portefeuille. Il y a des entrées, il y a des sorties. Les marques qui sont moins stratégiques, dont le profil de croissance est moins attractif, on les vend. C'est le cas par exemple de Paddy, c'était notre troisième marque de whisky irlandais. Donc ce n'est pas une marque qui était indispensable dans le portefeuille. On avait vendu un ready-to-drink Caribbean Cooler l'année précédente. Et à l'inverse, on investit dans des marques plutôt jeunes, à forte croissance, plutôt niche, que les nouveaux consommateurs, ceux qu'on appelle les millennials, adorent. Par exemple, Monkey 47, hein, le gin de la forêt noire. On a déjà des marques de gin, mais c'est différent, c'est pas les modes de consommation, et donc c'est très complémentaire de ce qu'on a déjà, ou comme on l'avait fait sur Avion dans la tequila super premium. Donc on va continuer à faire ça. Ce sont des acquisitions, ce sont même peut-être plus des partenariats, puisque globalement, on continue pendant plusieurs années à travailler avec les entrepreneurs qui ont créé ces produits, puisque c'est ceux qui les connaissent le mieux et on a encore besoin de travailler ensemble. On leur fait bénéficier de notre réseau, ils nous font bénéficier de leur savoir-faire sur la marque et à un moment donné, on sera seul propriétaire de ces marques.
Le mot de la fin, comment se présentent les perspectives de Pernod Ricard ?
On est confiant pour l'année qui vient. On a d'ailleurs annoncé nos objectifs de résultats, donc une croissance opérationnelle du résultat opérationnel courant comprise entre 2 et 4%. Je pense qu'on va continuer à avoir une bonne croissance aux États-Unis, sur Jameson, dans tout ce qui est le portefeuille innovation. On pense qu'on fera mieux en Chine. Sur Chivas, sur Absolut. Ça ne veut pas dire qu'on reviendra en croissance tout de suite, mais on aura une performance qui sera meilleure que celle de l'année précédente. Et par ailleurs, nous avons lancé un programme d'efficacité opérationnelle sur les aspects de logistique, les achats indirects, achats publics promotionnels, l'optimisation de la production, pour justement être capable d'améliorer de manière durable nos marges dans le futur.
Oh bien, on suivra ça. Merci Gilles Bogaert.
Merci.